Cours de philosophie première de Père-Marie Dominique Philippe, le 14 octobre 1999 à Saint-Gérard.
Il y a une question, j'avais fait une allusion rapide à la fin du dernier cours sur l'intuition de l'être, dont parle Maritain. À ce moment-là, ça fait toute une grosse secousse à droite et à gauche, ceux qui trouvaient que c'était génial, qu'enfin on découvrait ce que c'était que la métaphysique. Et puis alors, d'autres sont opposé, Maritain a répondu. Il y a toute une querelle sur la question de l'intuition de l'être, Maritain, qui est intéressante parce que il faut faire attention à la différence du platonisme. La philosophie de Platon repose sur quoi? L'intuition des formes, formes en soi. Et l'être est comme la dernière forme en soi. Alors la grosse question, c'est de savoir si l'intuition peut dépasser la forme ou pas dépasser la forme. Tout est là. Alors c'est une question critique. Je lis la question et puis je réponds rapidement parce que ça pourrait demander beaucoup de temps si on voulait répondre attentivement. Pourriez-vous préciser qu'est l'intuition? Vous avez dit que ça jaillit de la relation. Ça saisit la relation. Le contenu de l'intuition est toujours une relation. Vous avez dit que ça jaillit de la relation, que c'est l'étincelle qui jaillit de deux silex. On frotte, c'est une comparaison, hein. N'oubliez pas, n'en faites pas comme ici un petit principe, qu'on frotte l'un contre l'autre. Mais qu'elle cherche à dévoiler? L'intuition ne cherche rien à dévoiler, elle dévoile. Vous voyez, c'est nous qui cherchons. Nous cherchons, la recherche est du côté du sujet. Pourrait-on dire que c'est analogue à l'induction? L'induction aboutit à un principe. L'intuition aboutit à une relation. C'est là la grosse différence. C'est pas commode peut-être à bien saisir, mais c'est important à bien préciser. L'induction, c'est la voie par laquelle mon intelligence, dépassant le sensible, atteint le principe, les principes propres. On cherche pourquoi une chose appartient à une autre, c'est très juste. Ou plus exactement, on cherche pourquoi une chose est dépendante d'une autre, plutôt qu'appartient. Oui, parce que quand vous dites appartient, vous êtes déjà vers l'intuition. Parce que appartenir, c'est avoir, ce n'est pas être. Regardez la grande querelle de Gabriel Marcel entre être et avoir. C'est intéressant, du reste. Appartenir, c'est l'avoir. Mais c'est pas l'être. Justement, toutes les différences. L'intuition voit l'appartenance, la relation. L'intuition pénètre jusque l'analyse des principes propres. On cherche pourquoi une chose appartient à une autre. Cela me semble intéressant, puisque Jacques Maritain parle de l'intuition de l'être. Il a parlé beaucoup, et il y a eu toute une petite querelle là-dessus. On a demandé à Maritain quelle différence y a-t-il entre l'intuition et la saisie, et le jugement d'existence. Ça, il était un peu coincé, là. C'est là où vous le coincez, pratiquement. L'intuition ne parle pas sur ce qui est, mais sur une relation, le lien entre deux êtres. Le principe saisit ce qu'il y a d'intime, de profond dans la réalité. Le principe est indivisible, il est saisi en lui-même. Je me sers de ses effets pour saisir le principe. Et le principe a son intelligibilité en lui-même. L'intuition, son intelligibilité est toujours dans le rapport. C'est la voix. Jacques Maristain parle de l'intuition de l'être. Pourrait-on enfin parler de vérité dans l'intuition? Non, il n'y a pas de vérité. Il y a une relation nécessaire. Mais je ne dépasse pas l'intuition, quelque chose qui est un peu un terme. Je peux vérifier si cette intuition est juste. Et ordinairement, c'est très difficile de la vérifier. Maritain dit, par exemple, si on n'a pas l'intuition de l'être, on ne peut pas faire la métaphysique. Toute la métaphysique repose sur l'intuition de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'intuition de l'être? Et celui qui ne l'a pas ne sait pas ce que c'est. C'est mieux, seul, entre métaphysique, ceux qui ont l'intuition de l'être. Qui sont ceux qui ont l'intuition de l'être? Ceux qui l'ont eu. Alors, ils disent oui, c'est une relation très profonde. Vous voyez, c'est donc pas une voie d'accès. C'est comme quelque chose qui jaillit. C'est pour ça que je donnais l'exemple de quelque chose qui jaillit, de silex qu'on frotte l'un contre l'autre, et jaillit l'étincelle. Comme l'étincelle. Non, c'est très séduit, ça séduit. Toute la séduction est sur les relations. Analysez une séduction. J'ai eu des séductions, j'espère. Si vous n'avez pas eu, c'est ennuyeux. Ça n'empêche pas de faire la métaphysique. Mais on peut être séduit. On séduit par la beauté. Et je dis par quelque chose qui tient d'inédit, subitement. Et dans les levées de soleil, dans les couchers de soleil, dans les levées du soleil, il y a des choses comme ça qui nous frappent tout d'un coup. Qui nous saisit, on s'arrête. Et ce que je vous avais déjà dit, en Grèce, dans une île grecque, où je circulais avec un sculpteur de Fribourg que je connaissais bien, tout d'un coup je reçois un grand coup de coude dans la poitrine. J'étais mon sculpteur qui était saisi par une intuition. Oh, regardez ces yeux grecs! Évidemment, j'étais en 2015, c'était plus difficile, mais en extase. Parce que lui était presque en extase, c'était la séduction. Qu'est-ce qu'on saisit? Qu'est-ce qu'on saisit quand on est comme ça séduit? On saisit subitement une étincelle qui provient de deux, qui se rapprochent, dont on n'avait jamais vu. Le lien. Et subitement une nouvelle relation. C'est ça l'intuition. On saisit subitement une relation qu'on n'avait jamais saisie avant. Et au fond, le génie de l'artiste, c'est de mettre en valeur, en lumière, une nouvelle intuition. Dans les sensibles propres. On saisit subitement quelque chose de ce qu'on ne pouvait pas saisir. Alors, il n'y a pas d'intuition de l'être. Il y a un jugement d'existence, mais il n'y a pas d'intuition, puisque l'être est au-delà de la relation. Nous verrons ça en métaphysique. L'être n'est pas une relation. L'avoir est une relation, mais pas l'être. Alors, il faut bien distinguer le jugement d'existence qui touche l'être. Et au fond, toute intuition, c'est un avoir fondamental, premier. C'est une relation, c'est un rayonnement, c'est un épanouissement d'une réalité qui jaillit. Alors il y a une sorte d'intuition. Alors, je ne vais pas plus loin, mais c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à Maritain, c'est intéressant parce qu'au fond tout, toute la philosophie de Marita repose là-dessus, sur l'intuition de l'être. Un jour, il a dit, bon, c'est ça qui est au fond de toute ma philosophie, c'est l'intuition de l'être. Et alors c'est pour ça qu'il disait aussi, il s'est fait comprendre, que toute ma philosophie repose sur l'intuition de Raïssa. Des intuitions de Raïssa. Et Marita avouait très humblement, elle a beaucoup plus d'intuition que moi. Et quand Raïssa est partie pour le ciel, Marita dit, ma philosophie s'arrête. C'était très curieux et très intéressant aussi. Raïssa avait des... Elle était poète, Raïssa. Elle avait des intuitions affectives très fortes, très profondes. Et une vie de prière très, très intense. C'était pour Marita ce qui lui avait fait sortir du positivisme. C'est curieux, c'est intéressant. Alors ça, je comprends très bien comment l'intuition peut faire sortir du positivisme. Parce que ça, il y a toujours quelque chose qui élève et qui envoie vers quelque chose d'invisible, plus profond. Sachez qu'il y a là un problème intéressant. Parce que c'est intéressant de saisir quelqu'un qui, comme Marita, premier disciple de Bergson, et Bergson mis au-dessus de tout l'intuition. Et Marita a eu soin de montrer que son intuition de l'être n'était pas l'intuition de Bergson. Mais le mot intuition, d'une façon classique, il faut bien le distinguer de l'expérience, il y a deux mots. Les intuitions, c'est toujours une relation nouvelle, inédite, qu'on saisit. Et c'est pour ça qu'elle joue tellement dans l'art. Ça, c'est sûr. Je crois que quelqu'un qui n'a pas d'intuition ne peut pas être un artiste. Et on saisit tout positivement, tu raisonnes bien ça. On saisit tout positivement. Qu'est-ce qui nous fait sortir de ce positif? C'est l'intuition. La relation. C'est très riche, n'est-ce pas, la relation? Parce que c'est une manière de concevoir la philosophie. Et je crois qu'au fond, c'est ça qu'on doit voir. Une intuition très profonde, au-delà du sensible, on dira facilement que c'est une intuition métaphysique. En réalité, ce n'est pas une intuition métaphysique. C'est une relation qui reste au niveau de la forme, pas au niveau de l'être. On verra en métaphysique que c'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile à saisir en métaphysique, d'aller au-delà de l'intelligibilité formelle, qui est un dépassement du matérialisme, c'est déjà très beau. Et je crois qu'un homme qui saisit les intuitions ne peut pas tomber dans le matérialisme. Oui, c'est le dépassement du positivisme et du matérialisme. Et donc, c'est très beau, il ne faut pas la supprimer. C'est très ennuyeux, quelqu'un qui n'a jamais d'intuition. Au Solchoir, où les étudiants, à la fin de l'année, faisaient toujours un guignol sur leur professeur. Plus cher, c'est des fois un petit peu dangereux. Alors, il y avait le recteur qui n'avait jamais d'intuition. C'était très net, vous savez. C'était pour ça que c'était un petit peu ennuyeux ces cours. Parce qu'il n'y avait pas d'intuition, il n'y avait pas d'étincelle. Vous voyez, qui subitement, ah, tiens, je ne sais pas si c'est ça, tiens, oui, c'est ça. Alors on avait fait un guignol sur le recteur a eu une intuition. C'était une sorte de révolution. Mais ça montre très bien ce que c'est, vous voyez. Il y a le verre à mille pattes. Il est sûr de marcher toujours. Il a mille pattes, alors ça avance quand même, mais c'est le verre à mille pattes. On est sûr du terrain. C'est la canne de l'aveugle qui est sûr avant d'avancer, de toucher. Est-ce que c'est bien ça? puis il y a le vol de l'aigle. Deux extrêmes. C'est métaphorique, je suis tout à fait d'accord, c'est symbolique. Mais le vol de l'aigle, c'est pas l'intuition, c'est la saisie du principe et de la fin. C'est le bien. Autre chose. Maritain a essayé de renouveler l'ancienne scolastique par l'intuition de l'être. Et sûrement que le désir profond de Maritain, c'était d'être profondément disciple de Thomas d'Aquin. Je l'ai bien connu, c'est ce que je vous dis là, c'est parce que je l'ai interrogé là-dessus. Il dit, c'est très bien, mais je ne suis pas d'accord avec l'intuition de l'être. Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce que... Alors, il avait beaucoup de respect, même. J'étais jeune étudiant, oui, qui lui disait ça comme ça, à Maritain. Alors, il lui dit, mais vous avez une grâce pour saisir ce que saint Thomas a dit, que moi, je ne peux pas avoir. Alors, ça se termine comme ça. Mais le jugement d'excellence est présent dans l'intuition. Le jugement d'excellence n'est pas l'intuition. Tout le monde a le jugement d'existence. Il suffit d'être attentif à ce que c'est que la connaissance. Tout le monde peut faire de la philosophie. Ça ne commence pas subitement par quelque chose qui fait qu'à partir de ce moment-là, j'entre dans un autre monde, qui est mon monde, comme pour Platon. Platon, c'est son monde. Et si on n'a pas l'intuition de la forme, de là en soi, du bien en soi, ah bon, impossible. Et à la place de l'intuition, qu'est-ce que saint Thomas met ? Il met la ratio boni. Et la ratio boni, tous ceux qui saisissent ce qu'est la fin, la finalité, saisissent la raison du bien. C'est sûr que la ratio boni, je n'en ai pas l'expérience sensible. Il y a une certaine induction qui me conduit à la ratio boni. C'est pas grâce à un principe que je saisis la ratio boni en réfléchissant ensuite sur le principe. C'est une position critique, réflexive, sur ce que j'ai saisi antérieurement. Mais tout le monde peut, avec une rapidité différente. Je crois que c'est là la grosse distinction. Certains mettent très longtemps avant d'entrer en philosophie. Ils sont tellement fixés sur le point de vue positiviste des conclusions et de la loi qu'ils ont de la peine à saisir le principe. Parce que la loi est une relation. Et donc il peut y avoir une certaine intuition des lois. Ça oui. C'est vous voyez, on voit très bien quelqu'un qui veut faire une thèse en science biologique. J'en connaissais plusieurs, vous savez, il y avait toujours une certaine intuition que celui qui était le patron de thèse avait eu en lui disant « cherchez dans ce sens-là et vous le trouverez peut-être ». Et quelquefois, il cherchait indéfiniment parce que l'intuition avait décollé un peu et l'imaginaire avait remplacé. Alors l'imaginaire, hein, plus on étudie, plus on étudie, plus l'intuition disparaît. Parce que c'est une intuition imaginative. Vous avez des quantités d'intuitions imaginatives dans vos rêves. Si ça marche un peu, si ça chauffe un peu, alors des intuitions étonnantes, subitement. Des gros chiens qui sont mis en relation avec vous. C'est une relation vivante, celle-là. Et vous avez une peur bleue. Alors, dans l'intuition, puisqu'on parle de l'induction, presque toujours toute induction implique une intuition. Par l'interrogation. On verra ça quand on sera dans l'induction elle-même, au plan métaphysique. Il faut essayer de préciser exactement. Et donc, c'est l'intuition, elle est présente. C'est bien évident que si on n'a pas d'intuition, on n'avancera pas beaucoup. Ça, vous verrez. et très vite, on se distingue par cela. Certains n'ont qu'une intuition, ça reste toujours un peu très très terne. Et l'interrogation, presque toute interrogation présuppose une intuition. J'interroge parce que j'ai saisi quelque chose et puis je me demande si c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose d'authentique ou est-ce que c'est un rêve? Ça peut être un rêve. Il ne faut pas confondre. Le rêve éveille, réveille et permet de poser une interrogation. Mais le rêve ne me permet pas tout de suite de découvrir la vérité. Tiens, oui, posons cette question. Et c'est intéressant, parce que quelqu'un qui pose une question vraie fait avancer. C'est pour ça que vous dites posez vos questions. Et c'est toujours intéressant de poser une question. Ça fait avancer. Oui, pour essayer de dénouer l'intuition métaphysique du jugement d'existence. Arriver à dénouer les deux. Ça, c'est pas commode. Et c'est capital. Face à Maritain. Mais discussion porte toujours là-dessus. Immédiatement. Et je comprends très bien comment Aristote, face à Platon, interrogeait là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Mettre l'un avant l'être. C'est peut-être le secret entre l'intuition et l'être. Toute intuition découvre une unité. Toujours. Une nouvelle unité, une nouvelle relation, une nouvelle unité. Et une intuition de l'un. Il n'y a pas d'intuition de l'être. L'être est au-dessus de l'un. Parce que l'un est propriété de l'être. Si les propriétés de l'être, il est justement une relation à l'égard de l'être. Et il n'est pas l'être. Et on pourrait dire que toute la différence entre Aristote et Platon, c'est l'un. Toute la différence entre le néoplatonisme, le platonisme, le néoplatonisme, c'est qu'avant l'être, il y a l'un. Or, la métaphysique commence par le point de vue de ce qui est. Et non pas l'intuition de l'un. Et toute métaphysique qui est dépendante d'une méta-mathématique aboutit à l'un. Et c'est pour ça que les mathématiques impliquent constamment des intuitions. Vous savez bien ce que disent les mathématiciens à partir d'un certain âge, on n'a plus d'intuition mathématique. Plus cette pénétration suffisamment forte pour avoir une intuition. Et alors on a, c'est l'intuition, paraît-il, on le dit ordinairement, c'est sûrement pas entièrement vrai, parce que ça doit dépendre énormément des intelligences. Qu'à partir de 40-45 ans, les intuitions mathématiques sont beaucoup moins pénétrantes. Mais les mathématiques sont commandées par l'un. Pas l'un, propriété de l'être, mais l'un dans l'ordre de la relation. Et c'est ça que les mathématiques agissent. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien entre les mathématiques et les lois constantes. Pour formaliser une loi, il faut toujours passer par les mathématiques. Parce que ça formalise, ça précise. Et là, on saisit l'un comme ce qui permet de constituer une loi, parce que là, on voit une relation nécessaire. Et une relation nécessaire nous permet de saisir l'unité entre deux réalités. Alors c'est ça qu'il faut dépister quand il s'agit de l'intuition. Est-ce que toute intuition ne porte-t-elle pas sur l'un dans la relation? C'est pas seulement la relation, mais c'est l'un dans la relation. C'est le fruit de la relation, ton pouvoir, c'est l'un. Et alors, c'est au fond au cœur de l'interrogation de l'intuition. que c'est intéressant de voir qu'il y a, il y a des gens qui interrogent et des gens qui n'interrogent pas du tout, qui n'interrogent jamais. Puis il y a des gens qui interrogent tout le temps. Ils ont raison d'interroger. Pas tout le temps, d'interroger. Toute interrogation demande qu'on avance. Alors, on peut rester dans un jeu d'interrogation. Il faut discerner. Et ça, c'est pas si commode de discerner l'interrogation qui est faite en vue de découvrir la vérité et l'interrogation qui est faite pour ne pas découvrir la vérité. J'interroge. Tant que vous interrogez, vous êtes maître chez vous. Quand vous découvrez, vous ne l'êtes plus. C'est la réalité que vous avez découvert qui commande. Tandis que l'interrogation, c'est pour ça qu'il peut y avoir un jeu d'interrogation. Qui fait qu'on interroge, on va toujours plus loin. C'est normal, parce que c'est la relation engendre une relation. Il y a constamment cela, dans un certain jeu dialectique. Alors ça fait partie de... Bon. Après avoir précisé ce jugement d'existence, ceci est, qui commande toute la philosophie. On comprend comment Husserl, qui fait entre en philosophie à partir des mathématiques, Husserl a fait sa thèse de docteur en mathématiques. Et puis ensuite, il est passé à la métaphysique, à la philosophie première, disons. À la philosophie première, il est devenu philosophe. Et c'est pour cela que toute sa philosophie implique le poké, la mise entre parenthèses de l'être. C'est intéressant parce que c'est dit expressément. Tandis que dans la philologie, habituellement, on ne le dit pas. Husserl est resté avec la grâce particulière des mathématiques, qui est une grâce qui réclame d'être explicite, la certitude. Il dit, toute la philosophie implique, il ne peut se faire avec le poké, donc la mise entre parenthèses l'être. Vous mettez entre parenthèses l'être, qu'est-ce qui reste alors après? C'est ça qui est intéressant. On va dire, j'aime dire l'avoir, d'une certaine manière. Et je reste Gabriel Marcel, c'est bien ça qu'il veut montrer. C'est qu'au-delà de l'être, il y a l'avoir. Si vous mettez l'être entre parenthèses, qu'est-ce qu'il y a de fondamental? C'est la relation. La carte de visite, on met toutes les relations qu'on a. La première relation, c'est le lieu. Vous mettez votre adresse. Vous êtes en relation avec tel lieu, avec telle boutique où vous habitez. C'est ça l'adresse. Il y a des gens qui vivent uniquement de leur relation, de leur avoir. Et c'est un finisme. Et pour eux, c'est vraiment le... Ce qu'il y a de plus profond, ce n'est pas un positivisme, c'est un positivisme de l'avoir, de la relation. Qu'est-ce que nous constatons dans notre philosophie européenne? Qu'est-ce que nous constatons dans notre théologie européenne? Il y a un moment très précis qu'on peut très bien dater de tel philosophe, de tel théologien. Comme dans notre Europe, la théologie a commencé avant la philosophie européenne, en se servant de la philosophie grecque, qui est européenne d'une certaine manière, et la théologie chrétienne a tout bouleversé dans l'histoire de l'humanité. Et pour notre petite Europe, c'est quand même quelque chose de capital. À un moment donné, on considère que ce qui est premier dans notre connaissance, c'est d'affirmer « je pense ». Ça, c'est Occam. J'intelligo, Jérusalem Occam au XIVe siècle, et au plan théologique, quelque chose de très radical et très important, de Occam à Luther. Et André de Muralt, bien connu en Suisse, et un converti du protestantisme. Comment s'est-il converti? Par le contact de saint Thomas. Et d'Einstein. C'est intéressant, tu restes pour nous de voir ça. Alors, il découvre que tout le protestantisme de Luther est en lien avec. Il s'est mis à travailler Occam. Il m'a dit, et Occam a été bien plus loin que Luther. C'est sûr, parce que Luther n'est pas intellectuel du tout. Luther, c'est l'angoisse. Côté affectif, premier. Et le raisonnement l'agace. C'est l'affectivité qui commande tout. À quel moment, au fond, l'affectivité a-t-elle pris le pas sur l'aspect objectif de la recherche de la vérité pour ne chercher plus que la sincérité? C'est quand même un moment très important, cela. Et au point de vue de la pensée, c'est très important. Subjectivité affective qui est la sincérité. Et aujourd'hui, on sait très bien, la sincérité constamment remplace la vérité. Être sincère. Mais c'est très bien si vous êtes dans l'erreur, vous êtes sincère dans l'erreur. Et là, vous n'avancez plus. Vous tournez en rond. Être sincère. C'est déjà quelque chose, être sincère. Parce que ça vous fait sortir quand même d'une façade hypocrite. Il faut être dans la vérité, mais subjective. C'est la vérité subjective, la sincérité. C'est la vérité qui se retourne sur le sujet. En théologie, Occam, qui dit, 14e siècle, qui dit que ce qui est premier dans la connaissance, intelligo, et Occam ajoute, est amo Socratem. Donc, le intelligo est commandé par le amo Socratem. C'est l'affectivité qui fait que ce qu'il y a de premier, c'est le sujet qui pense. Puis, vous voyez Descartes, Cogito, qu'il y a de premier, Cogito. Alors, vous voyez toute la différence entre intelligo et Cogito. Et pour Descartes, et puis Amo Socratem tombe. C'est très significatif, ça met toujours en parallèle, parce que c'est la ligne de ceux qui mettent le sujet en premier lieu, et qui regardent ça en premier lieu. Alors, ça a commencé en théologie, et c'est intéressant de voir que ça a commencé en théologie. Et en théologie, on comprend très bien comment ce qu'il y a de plus certain, c'est la négation à l'égard de tout ce qui n'est pas Dieu. Et je dis ça pour déblayer et contempler Dieu. Saint Thomas dit que toutes les négations à l'égard de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus certain. Dieu n'a pas de corps. Dieu est un être entièrement en acte. Il ne peut pas y avoir de potentialité en Dieu. Parce que tout ce qui est potentiel est second et dépend de l'acte. Dieu est premier. Donc implique une négation, pas de division en lui. Il n'est pas divisible. On comprend très bien qu'en théologie, puisque on adhère à une réalité qui nous dépasse complètement, c'est nier tout ce qui est autour de cette réalité, mais qui n'est pas cette réalité, qui est la chose la plus certaine. Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre, pour saisir pourquoi la négation est première. Dès que vous laïcisez la théologie et que votre intelligence a été quand même marquée par cela, notre intelligence européenne a été marquée par la théologie, a été marquée par Thomas d'Aquin. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Thomas d'Aquin ou Don Scott. Et Don Scott est relatif à Thomas d'Aquin. Alors, je ne peux pas comprendre Don Scott si je ne vois pas Thomas d'Aquin. Et Don Scott fait que les distinctions s'identifient avec les séparations. Et alors, vous avez donc la primauté de la négation de l'infini en Dieu. À place de dire Dieu est infini, que Dieu est absolument simple, vous dites Dieu est infini. Toute la grande différence entre la théologie d'Occam, de Don Scott, et la théologie de Thomas d'Aquin. Et Occam est né dans le sillon de Don Scott, deux franciscains, deux frères. Mais Don Scott est plus proche de Thomas d'Aquin. Et la grosse différence entre Thomas d'Aquin et Don Scott, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à partir de là, le primat du sujet? Cogito. Quelle est la mesure de ma pensée? C'est mon cogito. Et la mesure de toute ma recherche en vue de la vérité, c'est le cogito. Ce n'est plus l'être, mais c'est le cogito, ce que je pense. Ce que je pense devient la mesure. D'où, vous comprenez bien, à la place de la vérité, c'est la sincérité. À la place de la recherche de la vérité, c'est la certitude. Dans la sincérité, qu'est-ce qui est mesure de ma sincérité? C'est ce que je pense. Je vous dis ce que je pense, et donc je suis sincère. Vous dites, vous vous trompez, c'est pas ça. C'est autre chose. Je vous dis ce que je pense, ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert donc est toujours en lien avec ma pensée. C'est impossible autrement. Alors, est-ce que vous cherchez la vérité, c'est-à-dire l'au-delà de ce que vous avez déjà pensé? Parce que la vérité, ça cherche indéfiniment. On peut toujours aller plus loin, être plus précis, pénétrer davantage dans la réalité profonde qui est l'homme et Dieu. À partir de Descartes, on peut dire pour l'Europe, à partir de Occam, la subjectivité a pris de plus en plus le pas sur l'objectivité. Et alors la philosophie et la métaphysique commencent par je pense l'être, je pense ce qui est cogito. Je pense, je cogite. Alors on doit se poser la question, et c'est important. Parce qu'on sait très bien que tout cela conduit à la phénoménologie. Il y a une continuité, il y a un lien, il y a comme une espèce de grand fleuve, si vous voulez, pour prendre une comparaison, où on retrouve toujours cette primauté du sujet. Et que le sujet est une mesure de la vérité. Ce que je pense est capital, est premier. Pour moi, c'est toujours premier. C'est ça qui m'intéresse. Alors, pourquoi ne pas considérer qu'il y a comme un progrès dans la recherche philosophique? Il y a Aristote, grec, cogito, ceci est. Et puis, il y a une découverte de ce qu'il y a de plus grand, de plus noble, dans toutes les réalités que je connais, c'est moi. C'est mon cogito. Il y a quelque chose de vrai. Si ma philosophie commence par les réalités physiques, les réalités physiques, elles sont corruptibles. Donc toute ma philosophie a une odeur de corruptibilité. Et donc, toute ma métaphysique et toute ma philosophie est liée à l'histoire. Je ne peux pas penser comme Aristote. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'être. Il est premier, mais c'est ma pensée. Quand je vais à Athènes, quand je parcours la Grèce, c'est évidemment le paysage a changé depuis Aristote. Ça, c'est bien évident. La terre vient au secours de la femme. C'est une parole très curieuse, qui est intéressante de l'Apocalypse. La terre vient au secours de l'homme. La femme, elle a une subjectivité plus forte que l'homme. Ça, c'est sûr, quand on regarde les différences. Parce que l'affectivité est plus développée. Donc il y a une subjectivité plus profonde, plus radicale. La terre. Quand je touche la terre d'Athènes, je peux me dire qu'Aristote a touché cette terre d'Athènes. Il y a un lien. Ce qu'Aristote a écrit, c'est évident, dépend du temps, mais ce n'est pas ce qu'il a écrit qui m'intéresse au point de vue philosophique. C'est le contenu de ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a atteint dans ses jugements et dans ses principes. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la manière dont Aristote a écrit. Le langage change. Si on avait la manière dont parlait le XVIIe siècle, on verrait qu'on parle beaucoup plus vite. On parlait beaucoup plus lentement. Parce que la parole est subjective. Et elle répond à un homme de tel ou tel moment. Il y a quelque chose pendant, si je touche ce qui est, est-ce que ça a changé? Est-ce que l'homme, dans sa capacité de connaître, dans sa capacité d'aimer, a-t-il totalement changé? Au contraire, est-ce que dans cette recherche de la vérité, n'y a-t-il pas un fil conducteur qui est le même? Une recherche de la vérité, c'est ça qui caractérise la philosophie. Ce n'est pas la recherche de la sincérité. Ça existe, hein? Ça existe. C'est pas méprisable. C'est bien évident que c'est pas méprisable. C'est quelque chose d'important. Et vous comprenez, si je m'enferme dans ma sincérité, c'est ma sincérité. C'est mon avoir. Qu'est-ce que j'ai ? Quand vous avez fait toutes les études métaphysiques, vous réfléchissez un instant et dites, quel est votre avoir ? Oui. C'est d'avoir cherché la vérité. D'avoir cherché à travers tout, ça c'est votre avoir. Mais la réalité que vous atteignez, ce n'est pas votre avoir. Plus vous avancez, plus vous voyez que cette réalité que vous cherchez, qui vous permet d'être dans la vérité, c'est celui qui est. C'est celui qui est créateur. C'est celui qui est premier. C'est celui qui peut dire « je suis ». Et celui-là, plus je m'approche de lui, plus je découvre sa transcendance, sa grandeur. Au-dessus de tout ce que je peux dire de lui. Et quand je saisis l'être du crapaud, je peux dire que ma saisie de l'être du crapaud est plus parfaite que le crapaud. Hein? C'est plus digne. J'ai pensé le crapaud. Le peintre qui peint le crapaud, sa peinture du crapaud a une dignité, s'il est un vrai véritable artiste, a une dignité que le crapaud n'a pas. C'est sûr, c'est peut-être une œuvre d'art merveilleuse, ce petit crapaud. Pas par un grand artiste. Il a quelque chose d'éternel. Hein. La peinture, pas le crapaud. Il n'est pas changé du tout. Alors vous voyez, la tentation, au fond, tout ce que je pense, je lui donne un habit particulier, ma pensée. Et ma pensée a une noblesse plus grande que la corruptibilité du physique. Tout le monde physique est corruptible, donc il peut changer. Et il changera. Il n'est pas éternel. La pensée, elle a quelque chose qui dépasse le temps. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas beaucoup mieux qu'en penser, s'arrêter tout de suite au point de vue métaphysique à ma pensée, plutôt qu'à la réalité physique, à la réalité naturelle, physique? Il faut beaucoup mieux penser à ma pensée. C'est beaucoup plus noble. Le seul objet digne de mon intelligence, c'est ma pensée, puisqu'elle est le fruit. On est en famille. C'est un livre merveilleux. C'est mon fils, ma pensée, c'est moi. C'est moi pensant. Et quand je suis pensant, je suis quand même un être remarquable, puisque je pense. Et puis je vais reprendre d'après, descendre en communion avec tous ceux qui vont manger avec moi. Ah oui, mais eux ne pensent pas beaucoup pendant qu'ils prennent un très bon repas. Ils ne pensent plus du tout. Et plus le repas est bon, moins j'y pense. Alors, c'est sûr, ce sont des gourmets. Alors, c'est pas très noble, manger. L'animal aussi mange. Alors, pourquoi s'abrutir à regarder les êtres corruptibles? Regardons tout de suite l'homme qui pense. Je pense. C'est bien plus intéressant. Et je communiquerai ma pensée aux autres. C'est bien plus noble que de leur communiquer toutes les recherches des réalités physiques. Vous voyez la tentation? Tentation de noblesse. L'aristocratie de l'intelligence. C'est vraiment cette tentation de noblesse. Qu'est-ce qui est digne de ma pensée? C'est ma propre pensée. C'est le seul objet qui est digne de ma pensée. Ça, il faut bien le saisir, parce que si vous ne le saisissez pas maintenant, un jour, vous le saisirez et vous deviendrez phénoménologue. Après avoir été les amis d'Aristote, quelle chute. Et au point de départ, c'est très noble. C'est très noble. Il y a de la noblesse. J'ai aucun. Intelligo et amo, Socrate. C'est quand même assez noble. C'est la noblesse du franciscain. Alors, pourquoi je ne m'arrête pas à ça? Je crois que ça, il faut comprendre ça. Et le comprendre souvent. Parce qu'on est tenté toujours de regarder ce point de vue-là. C'est la séduction de la psychologie, comparativement à la philosophie. C'est ça. C'est qu'on est séduit par le mal qui est mien. Et qui me met dans les douleurs, vite, vite, quittons ça. Pour me dire, jugement d'existence, ceci est je suis. Il faut comparer ces deux jugements. Lequel me met en présence de ce qui est? Puisque quand je pense, est-ce que je saisis l'être tel qu'il est ou tel que je l'ai pensé?